Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, eh bien, on accueille de nouveau un invité. Ça fait pas mal d'interviews là, ces derniers temps, mais je suis inspiré cette année. Et puis là, je suis super content parce que j'invite de nouveau un bon ami à moi. Pas seulement parce que c'est un pote, mais aussi parce qu'il a un parcours de vie assez incroyable et puis intrigant. Aujourd'hui, j'accueille un ancien hockeyeur pro qui est aujourd'hui docteur en physique. Et puis ça, c'est des hauts faits, mais il y a plein de choses entre deux. Et j'ai la chance d'accueillir Nicolas Villa. Nico, bienvenue.
Salut, merci.
Avec plaisir, merci pour ta venue. J'aime bien commencer les podcasts avec une question qui est, est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur toi que peu de gens connaissent? Ça peut être un détail, une petite anecdote.
Ah, c'est une bonne question. J'ai arrêté de faire du hockey pour faire du basket. Ça, il y a peu de gens qui le savent.
Est-ce que c'était la raison pour laquelle tu as arrêté? C'était parce que tu voulais faire du basket ou c'était le remplacement?
Non, parce qu'en fait, il y a un côté dans le hockey qui est assez lourd entre les déplacements, s'habiller, se déséquiper, prendre la douche, etc. Enfin, ça prend pas mal de temps. Et le basket, on prend le ballon, on sort dehors, on va sur un terrain, on joue au basket, quoi. Et je trouvais ça beaucoup plus agréable. Mais après une année, je me suis rendu compte que en fait, c'était le hockey que je préférais le plus, en fait. Donc j'ai arrêté le hockey une année, mais j'avais 12-13 ans par là autour, pour faire que du basket. Et après, j'ai arrêté le basket pour me remettre au hockey.
Ok. Ah, mais alors, c'est intéressant, parce que moi, j'ai cru que tu parlais de justement après ta fin de carrière au hockey.
Non.
Donc, en fait, quand tu étais jeune,
ouais,
tu as voulu switcher pour le basket.
Ouais, exactement. Ouais.
Et puis finalement, tu es revenu à ton premier amour.
Exactement.
Et puis, du coup, tu as repris ta carrière de basketteur.
Un peu plus tard.
Beaucoup plus tard à Belmont, avec moi notamment. Ouais. Ok. Bon, tu vois, même ça, même moi, je ne savais pas.
voilà.
Donc, d'où l'intérêt de la question. Justement, aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de parler de ton parcours, qui est un parcours singulier. Bon, je ne sais pas s'il y a des parcours qui ne le sont pas, mais où tu as vraiment deux choses très contrastées entre le côté sport d'élite et puis ensuite ta carrière plutôt académique. Donc, on va prendre les choses un peu de manière chronologique. Est-ce que tu arrives un peu à dire qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du hockey? Et puis, qu'est-ce qui t'a amené aussi à poursuivre là-dedans?
Ouais. En fait, la glace, c'est ma mère qui voulait. Donc, moi, je suis d'origine hispano-colombienne. Et ma mère, elle aimait aller sur la glace. Elle voulait absolument que j'apprenne à patiner, en fait.
OK.
Et du coup, elle m'a foutu sur les patins. Et puis, elle s'est dit, pour qu'il apprenne à patiner, je vais l'inscrire au hockey. Puis, je me suis pris au jeu. Et puis, je n'ai pas voulu arrêter de jouer, quoi. Donc, le hockey, c'est parti de là.
Okay.
C'est pas parti d'une adoration pour moi, pour ce sport ou quoi que ce soit, c'est parti grâce à ma maman.
Mais parce que ta mère, elle avait eu, pas une carrière, mais elle faisait du patin.
Non, quand t'étais plus jeune, pas du tout. C'est juste qu'en venant de Colombie, avoir des patinoires si proches de la maison, c'est pas quelque chose de commun.
Ouais.
Et elle trouvait ça génial de pouvoir patiner sur la glace. Et c'est vrai que la sensation, elle est quand même super sympa de patiner. Ça se rapproche un peu du ski, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus agressif. Mais c'est ce côté-là qui l'a fasciné.
Ok.
Et qui lui a fait se dire, allez, il faut que je mette mes enfants sur la glace pour qu'au moins ils apprennent à patiner et qu'ils sachent patiner, quoi.
Et pour le basket, la même chose, bien parce que ta mère, elle a coaché pendant de nombreuses années.
Ouais. Pour le basket, c'est aussi un peu la même chose, mais là, j'ai l'impression que c'était un peu différent parce qu'on va se promener au bord du lac, on voit les jeunes jouer au basket. Moi, avant, j'habitais à Grand-Veine. Mm-hmm. Puis à Grand-Veine, je ne sais pas si tu vois, il y a 4 terrains de basket juste à côté de l'école.
Oui.
Puis en passant par là, y avait toujours les grands qui jouaient au basket quand j'allais à l'école. Et puis ça me plaisait beaucoup. Enfin, moi, j'aimais beaucoup le sport de manière générale. Et du coup, je m'y étais pris au jeu de manière plus autonome, je dirais. Mm-hmm. Mais après, évidemment, ma mère s'est mise aussi à entraîner d'abord à Épalinges, puis moi j'ai joué, et puis après Belmont. Et voilà, donc c'était un poil différent, je dirais, l'approche dans les deux sports.
Ok, mais donc l'approche du sport très maternelle, du coup, pour toi.
Ouais. Après, il faut savoir que mon père faisait pas mal de... Il avait fait beaucoup de foot aussi, mon père. Donc,
Ok.
Et c'est, enfin, c'est aussi un sportif.
Et il n'a pas réussi à t'amener dans cette voie-là.
Non, mais il aimait beaucoup le hockey, mon père.
Ok.
Mon père aimait beaucoup le hockey. D'ailleurs, il m'a amené plusieurs fois à voir des matchs quand j'étais petit. Hein. C'est avec lui que j'allais voir des matchs, quoi. C'était pas avec ma mère.
Ok, donc
c'est... Donc c'est un peu les deux, je dirais. Et mon père, c'est quelqu'un qui a... Je dirais qu'il a le sens du jeu, en fait.
Peu importe le sport,
ouais, il a le sens du jeu. Et du coup, il m'a toujours en fait, donné bons conseils sur la glace. En fait. Son regard était toujours le bienvenu et super constructif. Quoi.
Ok, donc tu avais trois coachs, peu importe où tu allais, ouais, il y avait toujours des sons de cloche.
Après, c'était des coachs, je dirais, hyper sympas. Et c'était pas mes parents, ça n'a jamais été des gens qui m'ont mis la pression pour que je réussisse dans le sport. Au contraire, ils m'ont toujours dit, d'abord, tu fais tes études. Avant le sport, quoi. Si je n'avais pas fait mes devoirs, ça m'arrivait de pas pouvoir aller à l'entraînement. Enfin, c'est la pire des punitions pour moi. Mais
c'est intéressant d'avoir ce regard parce que souvent, il y a des histoires avec les sportifs d'élite où justement les parents derrière poussent énormément, voire imposent un sport. Donc, toi, ce n'était pas le contexte dans lequel tu as grandi.
Pas du tout.
C'est quoi qui t'a fait poursuivre ça dans plus qu'une pratique sportive, mais vraiment de développer ça à un niveau d'élite?
Écoute, justement, par rapport à ta première question, quand j'avais mes 12-13 ans, mes parents, au bout d'un moment, ils en avaient marre de courir de tous les côtés, parce qu'il y avait mon frère aussi, qui faisait du basket, donc ça fait beaucoup de trajets pour eux. Et ils m'ont dit, bon, maintenant, il faut aussi que tu choisisses. Donc c'est là où j'ai fait le choix du basket.
Parce que tu faisais les deux, en fait?
Je faisais les deux en même temps, ouais. Je faisais les deux en même temps. Et après avoir fait cette année de basket, c'est vrai que assez jeune, je me disais je veux faire sportif pro.
Ok.
Et c'est vrai que malheureusement en Suisse, le basket c'est pas encore un truc qui est hyper valorisé d'un point de vue sportif, quoi. Mm-hmm. Par contre, le hockey, alors maintenant aujourd'hui je sais pas, mais à l'époque je pense que c'était quand même c'était le premier sport national, je pense.
Je crois toujours. Hein.
Ouais, c'est bien possible. Et ça m'a donné une autre motivation de me dire, ok, bon, moi, je laisse tomber le basket, puis je me remets aussi au hockey. Mm-hmm. Puis en fait, c'est vraiment à ce moment-là, vers 13-14 ans, que j'ai eu le déclic de me dire, maintenant, vas-y, je me lance là-dedans, et puis je vais aller le plus loin possible, quoi.
C'était quoi la motivation pour devenir pro? Parce qu'il peut y en avoir plein.
Je crois que c'était juste d'être le meilleur, c'est tout.
Ok.
Je crois que c'était... Je voulais pas devenir... Enfin, oui, je voulais devenir pro en soi, mais je voulais juste être le meilleur, quoi. C'était la seule vraie motivation à l'intérieur de moi, quoi.
Ok. C'était pas les... Parce que des fois, on entend des jeunes qui disent « Ah, mais j'ai envie d'être pro pour... j'en sais rien, pour avoir un gros salaire, pour avoir la vie à côté. »
Il y avait une autre motivation, c'est que je me rappellerai toujours que je disais à mes parents, j'aimerais bien un jour pouvoir vous offrir des choses.
D'accord.
En signe de reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et justement, et avoir une carrière de sportif, ça permet d'avoir aussi un salaire suffisamment élevé pour pouvoir faire ce genre de choses, tu vois. Mm-hmm. Moi, je disais toujours, je vous achèterai une maison. Mais finalement, ça ne s'est jamais fait. Ils se sont achetés eux-mêmes leur maison, comme des grands. et voilà, mais...
Ça, c'est plus difficile comme pari à tenir quand tu nais en Suisse.
C'est clair.
T'avais pas précisé où tu voulais acheter la maison. Là.
Non, j'avais pas précisé. J'aurais pu dire en Colombie, ça aurait été meilleur marché. Quoi.
C'est ça. Ok, donc ça a été une des motivations. Et c'est quoi, parce que cette motivation, beaucoup de gens l'ont, maintenant, ça demande quoi comme processus pour aller dans ce monde et progresser dans ce monde d'élite?
Après, je pense que ça dépend vraiment des individus. C'est très individuel. Chacun le vit un peu différemment. Moi, quand je vois les gens qui étaient... Enfin, les gars qui jouaient, qui étaient autour de moi, qui sont maintenant encore pros, qui jouent encore au niveau national, voire international, ils avaient des approches qui étaient différentes des miennes.
Toi, la tienne, c'était quoi?
La mienne, c'était vraiment... très tôt, j'ai commencé à faire des sacrifices. Enfin, dès justement vers mes 14-15 ans, je me rappelle, je me réveillais à 6h du matin pour faire l'entraînement tout seul le matin dans la cave de mes parents.
Ok.
Après, j'allais à l'école, j'allais à l'entraînement avec le club, quoi. Mmh. Et je rentrais le soir, puis le lendemain matin, c'était rebelote. Je me réveillais à 6h du matin pour faire mon entraînement, quoi. Et je saoulais mes parents parce que je m'entraînais avec la musique. Donc j'embêtais mes parents, en fait. Je les réveillais tous les matins.
Oui, puis j'imagine si tu mettais des schlaps dans la cave, ça devait pas ouais, être super grave.
La cave, elle a, un temps, elle avait le fond du mur de la cave. Il était marqué de taches noires, en fait. Et puis il y avait la cave, la vieille machine à lessive que mes parents avaient utilisée, qui j'utilisais plus, en fait. Je l'utilisais comme goal.
Ouais.
Donc, entre les tirs de la canne, le puck qui table le mur et le puck qui rentre
dans la
caisse de résonance, je peux dire que ça avait du bruit. Puis j'ai pété 2-3 trucs aussi en jouant dehors. Enfin, entre les voisins, je crois que j'ai dû péter une vitre ou des trucs comme ça avec un puck, quoi. Je pense que...
Et ça, typiquement, c'est le truc de « je vais me lever », c'est quelque chose qui est venu de toi.
C'était ouais, pas c'est venu tout seul. Vous... Non, c'est vraiment venu tout seul, naturellement, quoi.
Okay.
Naturellement. Et puis, je pense un truc que me disaient souvent mes parents, c'est que si tu veux avoir quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Mm-hmm. Il n'y a rien qui est gratuit. Ça, ils me l'ont souvent répété, ils me l'ont souvent dit. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez vite intégré. Mmh. Et j'ai très vite compris, c'est que si je voulais être le meilleur, bah, il fallait que je travaille plus que les autres, il fallait que je donne plus de moi-même.
Et donc il y avait l'aspect travail. Est-ce qu'il y a d'autres sources ou d'autres angles que tu as pris, je ne sais pas, que ce soit en termes de nutrition, je ne sais pas, d'autres angles que tu as pris pour te rapprocher de ça?
Alors, je dirais un peu plus, peut-être un peu spirituel ou mental. Parce que mental, c'est quand même dans le sport un truc qui est hyper important. Il faut vraiment passer dessous la pression, il faut savoir être patient. Peut-être que des choses, des fois, je n'ai pas su le faire. Hein. Mais donc, ça a été aussi pas mal de lectures. Que ça soit pour essayer d'être plus dans le moment présent. Puis après, par la suite, j'ai été introduit à la sophrologie. Ouais. J'ai fait de la sophrologie pour le sport. Et donc, chaque jour, je fais de la sophrologie pour préparer pour les matchs et tout ça, quoi. Mais c'est venu un peu plus tard. C'est venu je sais pas, ma troisième année pro, ma deuxième année pro, je sais plus.
Ok. Les lectures, tu te rappelles de quel bouquin tu avais peut-être marqué à l'époque?
Alors, il y avait Eckhart Tolle, je crois.
Oui. Le pouvoir du moment présent.
Le pouvoir du moment présent. Il y avait le pouvoir du guerrier, je crois. Pouvoir du guerrier, il me semble. Peut-être que je me trompe dans le titre. Et je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a écrit, celui-là. Puis il y en avait un autre, c'est les accords Toltec.
Ok, ouais. Donc des livres assez grand public.
Ouais, c'est des livres grand public que tout le monde peut prendre pour soi et puis juste de lire et prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Le guerrier pacifique, voilà.
De qui?
Dan Millman.
Ouais, exactement, le guerrier pacifique, ouais. Voilà.
Dan Millman.
Ouais.
Voilà. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un de tes bouquins dans ma bibliothèque, de préparation mentale.
Pour la sophrologie?
Je sais pas si c'est de la sophrologie, ouais, mais un truc parce très axé vraiment sportif, préparation mentale.
Je pense, parce que, en fait, à l'époque, on était suivi par le docteur Gremion,
okay,
qui était au CHUV, à l'hôpital orthopédique. Et lui, il avait fait pas mal de sophrologie avec des sportifs. Et il connaissait, en fait, le docteur Abrezol, qui est, en fait, le père fondateur de la sophrologie en Suisse, quoi. Et puis, j'avais fait, en fait, mon travail de mémoire, c'est quoi au gymnase, j'ai oublié.
Ouais.
Le travail de maturité. Je l'ai fait sur la sophrologie. Et ensuite, j'avais même fait des séances de sophrologie avec le docteur Abrezol.
Et ça, tu l'utilisais donc en... Ça ressemblait à quoi, un peu, les séances que tu faisais?
Alors, les séances que je faisais tout seul à la maison, c'était sur des cassettes, encore. Oui. Tu vois, et donc, j'avais ma stéréo avec mon lecteur cassette. Je mettais ma cassette dedans, ça durait une demi-heure. Et puis je faisais ma sophrologie tout seul. Mais c'était une sophrologie où moi, tu avais une première 10 minutes de, vraiment de relaxation, de détente. Et ensuite, c'était beaucoup de visualisation.
Et c'était des choses spécifiques au hockey ou plus large?
C'était plus large. C'était plus large. C'était... Il n'y avait pas... Tu shootes le puck comme ça. Non. Ouais. C'était vraiment... tu vois tes mouvements comme t'aimerais les voir, comme t'aimerais qu'ils soient, ou des trucs comme ça. C'était ouais. vraiment pas axé sur le hockey. C'était axé sur la performance sportive de manière générale.
D'accord, ouais. Et donc, c'était pas des cassettes personnalisées pour toi? C'était des choses non. un peu non. pour sportifs?
Ouais. Mais ça m'a énormément aidé. Mm-hmm. Énormément aidé.
C'était où que tu voyais la différence dans, est-ce que c'était dans la technique? Ça a permis d'acquérir des choses? Ou est-ce que c'était en termes justement de gestion du stress?
C'était un peu les deux. C'était, alors la gestion du match, des émotions et de la, justement des fois de la patience que tu dois avoir pendant un match, quand il y a des moments qui sont chauds. Être vraiment le maître de toi-même quand tu es sur la glace. Mais aussi au niveau de l'anticipation des gestes. Surtout d'anticipation, parce qu'en fait, la visualisation me permettait de déjà prévoir mes gestes à moi, et donc je voyais plus rapidement le jeu. Mmh. Et donc, en gros, bah, tout qui, mon niveau augmentait naturellement, sans forcément améliorer mes skills. Mmh.
Et c'est vrai que c'est un vrai entraînement. Alors là, on parle de sophrologie, moi j'en parle souvent quand je parle d'hypnose, ouais. qui sont des techniques qui sont très proches, enfin, qui sont tous des états modifiés de conscience. Mmh. Et c'est des vrais entraînements. En effet, le fait de visualiser un mouvement, ça active les mêmes réseaux nerveux.
Oui.
Donc ça, il y a plein d'études là-dessus. Il y en avait une, notamment dans le basket,
okay.
où ils avaient fait avec deux équipes différentes. Pendant un mois, une équipe tous les jours shootait 100 lancers francs, je crois. Ouais. L'autre partie de l'équipe devait visualiser. Enfin, ils ne touchaient pas un ballon, ils devaient se visualiser en train de shooter les 100 lancers francs. Et la progression des deux groupes était à, je sais pas, un centième près, okay. la même.
Ah ouais.
Donc, c'est...
Non, mais ça, moi, je pense que si on s'implique dans ce genre d'entraînement, mm-hmm. je pense que ça aide énormément.
Ouais, alors, c'est juste ce que tu dis, c'est que c'est pas faire une fois une séance et puis non, c'est bon, ça nous développe.
Non, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, quoi, en fait. Mmh. C'est comme pour tout, hein. Si on veut avoir des plus gros biceps, il faut les travailler quasiment tous les jours, parce que sinon ils vont pas devenir plus gros, quoi.
Enfin, et ça, sur la glace, est-ce que tu avais des techniques justement pour te recentrer? Tu parlais du moment présent.
Alors, non, ça j'avais pas. À l'époque, j'avais pas encore. Après, j'ai fait mes séances avec le docteur Abrosol, mmh. qui a commencé à m'apprendre 2-3 techniques pour me recentrer quand tout d'un coup j'étais trop nerveux ou. Mmh. C'est la technique des... J'avais quoi? C'était le doigt. Je sais pas si tu connais. Doigt, image mentale, puis un autre truc, je ne me rappelle plus.
C'était pour...
Mais en gros, c'était 3 signes que je devais faire pour justement qui me ramenaient à un peu à un état serein. Mmh. Puis c'est ouais, vrai qu'en les répétant, à force de les répéter tout le temps, tout d'un coup, on sent qu'on est nerveux, on les fait, on imagine notre image mentale qui nous détend. Et ça nous aide.
Mmh. Ouais, c'est des techniques d'ancrage.
Moi, je connais pas les termes, mais du coup.
Ouais, ouais. Mais c'est intéressant ouais, parce ouais. que c'est des choses qui sont utilisées dans plein de techniques, que ce soit la PNL, la sophrologie, ouais. l'hypnose. Et en effet, plus tu vas être dans un état que tu recherches puis créer ces ancrages, plus après ton corps il associe les deux. Puis en effet, quand tu refais le geste, il se dit attends, mais toutes les 50 dernières fois qu'il m'a fait ce geste-là. On était super calme, ouais, super concentré. Ouais, ouais. Donc, on est comme un interrupteur, un petit peu, ça redéclenche.
Exactement,
ça.
Exactement. Ouais.
Ok.
Donc, alors, c'est avec le docteur Abrosol que j'avais appris.
Ok.
Et après, il est décédé pas longtemps après. Je pense que j'ai fait quelques séances avec lui. Puis, une année plus tard, je pense qu'il est décédé.
Ok.
Il était assez âgé quand j'étais allé le voir.
T'as eu la chance de pouvoir encore.
Le connaître, ouais.
Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres astuces comme ça ou. Ou choses qui t'ont marqué et qui t'aidaient sur la glace?
Ah, il y a toujours, tu sais, des petits rituels. Je ne sais pas si c'est des rituels, mais au moins, tu as l'impression d'avoir, quand tu as des habitudes, tu as l'impression d'être toujours sur la même voie. Mmh. Et du coup, ça te réconforte, en fait. J'ai l'impression que c'est, je pense, un artefact. Mais mentalement, ça te réconforte dans le fait que tu vas bien performer. Ouais. Et beaucoup de sportifs ont ça. Hein. Moi, typiquement, il fallait que je mange mon assiette de pâtes avec mon steak à midi. Après, il fallait que je fasse mes 2 heures de sieste. Puis ensuite, il fallait que j'aille au vestiaire. Il fallait que je fasse des choses au vestiaire que je faisais à chaque jour de match,
ouais.
etc., etc.
Oui, alors, c'est... Bah oui, enfin, je pense que tous les sportifs, en tout cas tous les sportifs qui performent, ont ce genre de routine.
Ouais, une routine...
Et je pense qu'il y a une part d'ancrage, mais là, qu'il y a un ancrage, au lieu que ça soit sur le moment, c'est toute la journée, déjà, ouais, ouais, t'es ouais. déjà dans le match. Et puis, il y a une part de... En fait, plus t'es dans une routine, moins t'as besoin de réfléchir. Et c'est tout c'est cet vrai. Espace mental aussi que t'économises. Mm-hmm. Parce que du coup, t'es pas en train de dire « Ah, purée, c'est quoi que je dois me cuisiner ? À quelle heure ? Puis après, est-ce que je dors ou pas ?» Tous ces stress de décision que tu t'évites.
Ouais. Non, j'ai jamais vu ça comme ça, mais effectivement. Ouais. Je pense que... Puis en plus de ça, ça aide à rentrer dans le match.
Ouais.
Parce que les fois où... Ça peut arriver que tu fasses pas du tout cette routine-là et que tu sortes un match génialissime. Et c'est peut-être parce que tu t'es libéré de tout. Tu vois, tu as oublié tes routines, tu les as pas faites, puis en fait, tu joues complètement libéré.
Okay.
Mais il y a des fois où, si tu n'as pas cette routine-là, bah en fait, t'es presque nerveux parce que t'as pas fait ce que tu fais d'habitude.
Mm-hmm. Ouais, alors, est-ce que t'allais jusqu'à mettre le même caleçon
ou... Non, alors ça, non, quand même pas.
T'avais pas de superstition.
C'était non, superstitieux à ce point, non. Par contre, c'était toujours le même échauffement, tout seul, au même endroit, les mêmes exercices, l'un après les autres. Enfin, l'ordre était bien défini.
Ok.
Et par contre, si je me trompais, il fallait que je recommence l'échauffement. Mon échauffement personnel.
En entier ?
Ouais. Là, je recommençais.
Ok.
Donc, ça, il y avait un poil de superstition de ce côté-là. C'est pour l'échauffement avant d'aller sur la glace.
D'accord. Ouais, alors après, c'est clair qu'on peut pousser le truc plus ou moins loin. Bah, je pense que l'exemple le plus visible, c'est peut-être Rafael Nadal. Quand tu le vois...
Ouais, c'est impressionnant.
Ça devient... Ouais. T'as presque l'impression que c'est de la psychopathologie. Parce que c'est vraiment... ça ressemble presque à des tocs. Ouais, mais ouais. Bah, pousser à l'extrême, ça peut le devenir. Si on commence à se dire « si j'ai pas fait ça, ça veut dire que je vais rater derrière.
Ouais, » ouais, ouais.
Puis la limite, elle peut être fine.
C'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que c'est le seul truc où j'étais un peu charmé. Après, j'ai des copains avec qui j'ai joué, qui nous regardent, se reconnaîtront hein, du côté du Valais, qui avaient vraiment beaucoup de gestes qui étaient quasiment c'était des tocs aussi. Hein.
Ouais. Bah, il peut y avoir plein de raisons d'en développer, hein, mais c'est vrai que le fait de s'instaurer comme ça autant de rituels, la limite après mentale, elle peut être fine entre ça, puis ouais. la superstition, ouais, ouais. avoir certaines croyances un peu magiques.
Ouais, si je ne mets pas ma canne à droite au lieu de la gauche, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mal jouer, ça va se passer. Non, mais alors ça, j'étais pas à ce point. Quoi.
Et puis là, ça donne l'effet inverse, du coup, où au lieu de nous calmer, nous sécuriser, bah, ça nous angoisse.
Exactement, ouais.
Ok. Et ça, c'était pareil, c'était parce que là, ta carrière de hockeyeur, tu l'as terminée, ça fait...
Ça fait maintenant, ça fait longtemps, c'était 2022. Attends, qu'est-ce que je dis ? 2012. Non, 2011.
2011, ouais.
2022, pourquoi je dis 2022 ? 2011.
2011. Donc, à l'époque, parce que la préparation mentale, ça s'est aussi pas mal démocratisé. En 2011, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Ça, à nouveau, c'était des initiatives personnelles ou c'était des choses dans le club
C'était que personnel.
Ok.
J'étais très peu suivi de ce côté-là. En tout cas, pour l'aspect mental, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont bien plus suivis. Et, tout s'est, en tout cas, dans le hockey, tout s'est énormément professionnalisé.
Ouais.
Ils sont beaucoup plus suivis. Ils sont...
à tous les niveaux,
je pense. Ils sont taqués, quoi.
Ouais. Et ça, là, tu as parlé pas mal de la préparation mentale, mais il y a tout cet aspect aussi de gestion. Comment est-ce qu'on gère les victoires, le succès, mais aussi comment on gère les défaites. le rapport au public qui, ben, dans tous les sports, mais moi j'ai des souvenirs au LHC, j'étais au match où il y avait eu la relégation.
Ouais.
Où tu étais ?
Alors pas encore.
Non, pas encore.
J'étais arrivé juste après la relégation.
Ok. Et je me rappelle, le public, c'était vraiment trash. Tu vois, les messages que ça envoyait, les chants. Comment... Puis bon, il y a l'aspect face aux performances, il y a aussi l'insécurité, tu vois, du contrat, il faut performer, sinon tu perds ton contrat. Tous ces à côté, comment tu gérais ça ?
Bon, après, il faut savoir que moi, j'étais assez jeune. Hein. Moi, j'ai intégré la première équipe, j'avais 16 ans. Je venais de rentrer au gymnase, j'habitais encore chez mes parents. Je pense que je n'avais pas encore la maturité. Par exemple, pour ces histoires de contrat, je ne me posais pas tant de questions que ça. Tu vois, j'étais tellement au début de ma carrière que, en fait, pour moi, si Lausanne ne me veut pas un jour, je pourrais aller voir ailleurs, certainement. Mais par contre, avec le public, alors sur la glace, le public, moi, il ne m'a jamais. Alors, je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas influencé, mais moi, j'étais tellement dans ma bulle que consciemment, j'ai pas l'impression qu'il m'influençait. Inconsciemment, je pense que oui, typiquement quand d'un coup il te pousse, toute la patinoire est en effervescence, en train de crier pour qu'on marque un but ou pour qu'on aille de l'avant. Là, je pense qu'inconsciemment, tu reçois de l'énergie positive et puis du coup, ça te pousse de l'avant toi sur la glace. Mmh. Après, quand t'es eu, ouais, c'est un peu. C'est un peu chiant, quoi. Tu rentres au vestiaire, tu te dis, mais... Mais t'es pas forcément fâché contre eux. T'es aussi énervé contre toi-même, parce que tu te dis, mais on n'a pas livré ce qu'on devrait livrer en tant qu'équipe.
Ouais.
Et c'est toujours un peu frustrant, parce que quand tu fais partie d'une équipe, c'est toute l'équipe qui performe. C'est pas un individu. T'as beau faire le meilleur match du monde, si tu perds, tu perds. Mmh. Donc ça, c'était hyper frustrant, ouais, de gérer cet aspect-là. Après, le public, c'est une chose. Le pire, je pense, c'est les médias.
Ouais, alors il y a ce côté-là.
Je pense que le pire, c'est les médias. Et puis, je me rappelle, à l'époque, il y avait les forums du Lausanne Hockey Club et tout ça. Je pense que la pire chose que je suis allé faire une fois, c'est aller voir le forum, quoi.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, les gens te crachent dessus. Puis en fait, je suis allé une fois, puis après, je suis plus retourné, quoi.
C'est compliqué en plus. Alors, petite remarque par rapport à l'âge où tu as commencé.
Ouais.
En effet, ça rend ta fiche de carrière incompréhensible.
Vraiment.
Parce que je suis allé voir cet après-midi en préparant l'interview. Il y a à chaque fois trois ou quatre lignes des équipes où tu jouais, parce qu'il y a la première équipe, moins de 21, moins de 18, ouais, moins de 16.
Ouais.
Du coup, j'étais là, attends, mais c'est quoi
c'est un peu infernal. Les fiches.
Je comprenais rien.
Ouais. Bah, en fait, j'ai intégré la première équipe et ce qui se passait, c'est que vu que j'avais l'âge junior, ils m'envoyaient de temps en temps jouer avec les juniors.
Ouais.
Puis j'étais pris en équipe nationale aussi, donc je jouais avec l'équipe nationale. Donc normalement, c'est possible qu'il y ait pour les années 2006, mm-hmm. 2007, 2008 et 2009, il doit y avoir à chaque fois trois équipes possibles.
C'est ça, donc ça m'a mis un peu dans le flou.
Ouais, ouais. Mais c'était les longues saisons, quoi. Après, on est jeune, on a de l'énergie, et puis... je faisais pas mal de matchs par année, quoi. Mmh. Je pense que j'étais pas loin d'une centaine de matchs, voire plus, quoi.
Et justement, en arrivant jeune dans ce monde-là, j'imagine que c'est pas évident d'avoir cette maturité, puis d'être face à des médias, de voir son nom en gros titre, avec des choses qui peuvent faire mal. Ça, justement, t'arrivais à t'en protéger ?
Ouais, alors... Le plus dur, c'était... Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce forum. C'est ces gens, c'est des individus que tu connais pas, qui te crachent dessus. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Après, un journal qui écrit un article un peu négatif, je veux dire, ça peut se comprendre.
C'est leur boulot, disons.
Voilà, c'est leur travail. Ouais. C'est leur travail. Après, que l'opinion publique te crache dessus, c'est un peu plus dur, je trouve.
Ouais. Okay.
Mais non, et puis après, c'est vrai que je me posais pas tant de questions. Et puis j'étais bien coaché, entre guillemets, par à l'époque Jean-Jacques Echeliman, qui était ex-capitaine de l'équipe nationale, qui a fait une belle carrière à Lugano, qui a fini sa carrière à Lausanne, qui me disait ne lis pas les journaux et ne va pas sur ces forums.
Ouais.
Puis en fait, j'ai passé un peu à travers, quoi.
Oui, puis il y avait moins. Alors, toi, t'es toujours pas trop sur les réseaux sociaux. Alors, on en a discuté avant, mais c'est vrai que ça, c'est un autre risque encore aujourd'hui où même si tu veux éviter les news, tu vas sur tes réseaux sociaux privés et puis t'es susceptible de tomber sur, sur tout ça.
Ça, clairement. Ça, je pense, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un truc qui peut être plus compliqué, quoi, à gérer.
Et qui peut rendre la chose beaucoup plus virale, parce que le forum du LHC, ben...
C'est très restreint, quoi. C'est une niche, quoi. Comparé à Facebook, Instagram, ou tous ces trucs où ça peut aller super vite, quoi.
Ouais. Ok, mais c'est donc t'as aussi été un peu... conseiller là-dedans des anciens.
J'ai été épargné un peu par la mauvaise, les mauvaises ondes des avis externes, quoi.
Il y a la part aussi de quand on fait ça aussi jeune, comment c'était d'arrêter ta carrière, parce qu'il y a ce côté aussi d'identité qui est pas facile à quitter quand on s'est construit beaucoup dans cette activité, qu'on est connu pour notre jeu, etc. C'était comment pour toi de quitter ça?
Alors ça a été hyper dur. C'était une décision hyper dure à prendre. Puis j'avais 22 ans quand j'ai prise. Mais ce qui était vraiment dur, c'est que j'avais l'impression de laisser tomber un premier rêve.
Ouais.
C'était pas vraiment l'identité que j'avais par rapport au sport. C'était de me dire... mon rêve, c'était de faire pro et faire carrière. Et là, je suis en train de me dire, ah, tu vas faire autre chose. Que j'aime autant la physique. Hein. Ça, c'était pour moi le plus dur. De me dire que c'était un chapitre de ma vie que j'allais boucler.
Et quand bien même il a été justement, alors peut-être que tu aurais voulu aller encore en NHL ou comme ça. Mais disons, t'as vécu le rêve.
Ouais.
Mais c'est clair, malgré ça, c'est un chapitre qui se clôt.
Ouais. Oui, oui. Après, je veux dire, quand on jouait, on a fait deux fois champion suisse de Ligue B. On a échoué les deux fois au septième match contre Bienne. Enfin, on était à deux. À chaque fois, deux doigts de passer pour passer en Ligue nationale A à l'époque. Et puis l'année que je décide d'arrêter, l'année suivante, ils montent en Ligue A. Alors j'étais assez frustré de me dire « Merde, j'ai choisi la mauvaise année pour arrêter. » Mais j'en avais marre. Enfin, c'est juste que quand j'ai fini mon gymnase, pendant 2 ans, j'ai fait que du hockey, mais j'avais un manque intellectuel.
Ouais.
Et ça me fatiguait de faire que ça. En fait, j'avais trouvé un super équilibre en faisant le gymnase et le sport.
Qui est pourtant un truc qui n'est pas évident à faire.
Il n'est pas évident. Après, le gymnase, ce n'est pas non plus le plus dur. Hein, mais c'est la dose qu'il me fallait pour avoir un équilibre. Et en faisant que du hockey, en fait, j'ai perdu cet équilibre. Et ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait plus.
OK. Et bravo aussi d'avoir, tu vois, avoir cette maturité, cette sagesse de dire « OK, ben voilà, j'y trouve plus mon compte. » Et puis après, bon, il y a le côté... Quand tu as arrêté, tu commençais les PFL ? Ça a coïncidé aussi avec ça ou...
Alors, j'avais commencé les PFL pendant que je jouais au hockey.
Ok.
Parce que je m'étais dit, bon, après une année et demie, je me suis dit, vas-y, je commence le PFL, même si je joue au hockey. C'était la catastrophe. Autant dire que je ne voyais pas le puck, quoi.
Ouais.
Du coup, je me suis désinscrit de l'EPFL avant les examens parce que je savais que ça allait être un échec total. Puis je me suis réinscrit l'année suivante.
Okay.
Quand je savais que la saison allait être finie. Mais à la fin de carrière, en fait, il y a aussi le fait que j'ai un peu été frustré du fait de... J'ai l'impression qu'on n'a pas reconnu forcément tout mon travail. J'ai eu cette impression-là.
Quand t'as arrêté le hockey.
Ok, aussi, ouais. Ça fait partie de la décision aussi. Il y avait le fait que je trouvais plus mon équilibre. À ça s'ajoutait une frustration de ma part parce qu'on avait changé. Je crois que j'ai eu une dizaine de coachs en 6 ans, je crois.
Ok, ouais.
Ça fait à peu près 2 coachs par année. Ou un peu moins, je ne sais plus. Je n'en rappelle plus, il faudrait que je revoie. Mais il y a eu beaucoup de tournus. Mm-hmm. Et puis, ça, c'était pas facile à vivre. Parce que pour un jeune, en fait, à chaque fois, tu dois refaire ta place. En fait.
C'est ça. Et puis, t'adapter quand même à une autre philosophie, un autre style de jeu. Ouais.
Et puis, du coup, puis vu que j'adorais la physique, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça.
Pour faire un peu cette transition, justement, sur ta vie de maintenant, il y a un truc... Alors, je sais pas si... Peut-être c'était uniquement mon ressenti. Un truc qui m'a un peu... pas choqué, mais interloqué à ta défense de thèse, c'était... J'avais l'impression qu'il y avait un étonnement et que c'était très appuyé sur le fait que voilà, c'était très étrange qu'il y ait un sportif d'élite qui fasse un doctorat en physique. Un peu... Alors, c'est clair que c'est impressionnant et que c'est peu commun, je pense. Mais moi, je ressentais un peu ce côté, mais en fait... un sportif d'élite, c'est forcément un débile profond. Et donc, c'était très, très surprenant de que tu arrives à ça.
Et après, je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a le fait que j'ai fait du hockey, j'ai fait mes études, je suis allé travailler dans l'industrie et je suis revenu, je suis revenu faire une thèse en académique. C'est ça qui est ce parcours qui est un peu bizarre.
Okay.
C'est ça qui est vraiment étonnant. Après, il y a plusieurs sportifs... Après, il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a qui font des sports d'élite et qui font un cursus académique qui est quand même assez remarquable. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je dirais que c'est pas la norme, je pense.
Ça, c'est clair, mais...
Mais c'est clair que...
J'ai eu ce ressenti, je sais pas, je trouvais étonnant et ça, je pense que ça représente beaucoup en fait, des clichés qu'on a.
Sûrement. Sûrement. On voit, je sais pas si t'as vu le sketch d'Artus.
Non.
Je te laisse le regarder.
Ok.
Sur le handisport.
Ok.
Tu verras bien le cliché, il est bien là.
Ok. Et ça, ben, j'aimerais bien que tu nous parles justement de ta thèse que t'as terminée il y a quelques mois.
Ouais.
Je vais être incapable d'introduire le titre et vraiment la thématique. Pourtant, j'étais là à ta défense.
Ouais, ouais.
J'avais pris une photo du titre.
tu l'as effacé par mégarde.
Mais je trouve intéressant que tu en parles parce que ben, c'est un podcast, on parle beaucoup de santé, plutôt de santé mentale.
Ouais, ouais.
Mais toi, tu as une thèse qui mélange vraiment la physique, la biologie, la médecine. Et je trouve que c'est assez passionnant.
Ouais. Donc, du coup, ma thèse. La question qu'on s'est posée, enfin, je ne suis pas le premier, parce qu'il y a eu 2 thésards avant moi qui sont lancés dans le projet. Ils n'ont pas abordé directement les questions biologiques et médicales, parce qu'il fallait que toute la physique fonctionne derrière. Mmh. Mais on s'est intéressé durant ma thèse à savoir si, avec de la lumière, on pouvait, d'une manière ou d'une autre, faire des tests de susceptibilité aux antimicrobiens. Ça veut dire, un test de susceptibilité aux antimicrobiens, c'est quoi ? C'est-à-dire, on a un microbe qui nous infecte, qui infecte l'humain ou qui infecte autre chose, hein. Par exemple une bactérie, mm-hmm. et on veut tester une substance, un médicament, donc un antibiotique pour la bactérie, et savoir s'il est efficace. Donc le test de susceptibilité va nous dire, oui, il est efficace avec une certaine proportion d'antibiotiques. Si on est en dessous de cette proportion-là d'antibiotiques, ben en fait, ça ne va pas faire d'effet. Mmh. Et c'est super intéressant parce que, comme tu l'as dit, ça fait intervenir la physique, de l'optique, de la fabrication, de la micro-fabrication. Et ensuite, tu as toute l'application à la biologie, aux bactéries, et tu as la possibilité d'avoir un outil de diagnostic dans peut-être quelques années, je ne sais pas.
Parce que ça, justement, si on resitue en termes de problématiques, ça s'inscrit dans une problématique mondiale, en fait, par rapport à la résistance aux antibiotiques.
Exactement. Ouais, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance aux antibiotiques, ça cause énormément de décès. Les prévisions des experts pour 2050, si la résistance aux antibiotiques continue à augmenter, c'est 10 millions de morts par année. Et donc, il faut agir très rapidement. Donc, il y a déjà plein de choses qui se sont mises en place au niveau international, notamment par le WHO, World Health Organization.
Oui.
Comment c'est en français ? L'Organisation Mondiale de la Santé, voilà. Pardon, excuse. Et du coup, il y a plein de nouvelles technologies. Parce que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la résistance aux antibiotiques. Mais ça, on peut rien y faire. Enfin, je vais dire, une bactérie, elle va suivre l'évolution naturelle. Et quand on va lui donner un antibiotique, enfin, elle va faire face à un antibiotique, elle va s'adapter naturellement, elle va muter pour devenir résistante, parce qu'elle veut vivre. Et c'est le problème de base. Et aujourd'hui, l'humain peut influencer sur deux choses. C'est découvrir des nouveaux antibiotiques, et de l'autre chose, c'est de créer des outils diagnostiques qui permettent de trouver plus rapidement quel antibiotique il faut donner à un patient malade. Parce que quand on ne sait pas quel antibiotique donner, on va donner ce qu'on appelle un antibiotique à large spectre qui va en fait essayer de tuer toutes les bactéries possibles. Et ce n'est pas forcément bon, parce que quand on va donner un antibiotique, on va justement forcer l'évolution de la bactérie. Donc on va possiblement créer de la résistance bactérienne. Mmh. C'est le premier souci, c'est créer des nouveaux... qu'est-ce que je disais, j'ai oublié.
Il y avait deux choses sur lesquelles on pouvait influer.
Voilà, influer. Voilà. Alors la première chose, c'est les outils diagnostiques. Puis l'autre chose, c'est la découverte de nouveaux antibiotiques. Mmh. Parce qu'il faut savoir, ça fait depuis des années en fait, qu'on n'a pas découvert une nouvelle classe d'antibiotiques. C'est-à-dire, on entend par classe d'antibiotiques une substance qui agit de façon différente que toutes les autres substances qui existent sur le marché d'aujourd'hui.
Ok. Donc là, c'est que des substances qui ressemblent plus ou moins, mais qui sont quand même de la même famille.
Voilà, elles sont de la même famille.
Ok.
Et là, si on veut, la dernière famille qui a été découverte pour les antibiotiques, ça date de 1900... Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est des années 70.
Ok.
Donc ça fait quand même un bon moment, quoi.
Et puis si on compare ça à l'évolution des technologies, de la santé, etc., c'est vraiment la préhistoire.
Après, alors c'est la préhistoire, et le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'investissement qui soit fait pour la découverte d'antibiotiques. Mm-hmm. Parce que l'antibiotique, c'est quand même assez particulier, c'est très compliqué à découvrir et à mettre, je veux dire... Un patient, une fois qu'il a l'antibiotique, qu'il le soigne, l'antibiotique, il n'en a vraiment plus besoin. Ouais. Donc, ce n'est pas rentable.
Ouais.
C'est triste à dire, mais ce n'est pas rentable pour les grandes industries de faire ce genre de médicaments. Quoi. Mm-hmm. Ça, c'est triste à dire, mais c'est le cas. Quoi.
Si on va dans des théories plus macabres, justement, tu vois, tu parlais de... par rapport à l'industrie ou comme ça, mais tu parlais de l'importance de pouvoir éviter la résistance aux antibiotiques par les bactéries, puis de pouvoir sélectionner la bactérie concernée. Mais un autre intérêt à ça, c'est que si tu mets quelque chose qui tue toutes les bactéries, y a plein de bactéries dans notre corps qui sont super utiles, notamment dans
tout
le microbiote, qui nous aident à créer des choses dont on a besoin,
oui.
qui nous protègent. Et ça, c'est aussi des facteurs... de troubles psy, on le voit de plus en plus, l'importance du microbiote avec la santé psychologique, avec des maladies chroniques, inflammatoires. Et donc, on va pas partir dans une théorie du complot qu'ils ont tout intérêt à laisser ça comme ça parce qu'après, ils vendent des traitements pour des maladies chroniques ou des antidépresseurs. mais ces impacts non, que ça peut
sûr,
avoir.
C'est sûr. Après, là, le sentiment que j'ai, moi, je suis pas le spécialiste des antibiotiques ou de ça, mais le sentiment que j'ai par rapport à ce que je vois et ce que je lis dans la littérature, c'est que de plus en plus, on essaie de s'orienter à utiliser des antibiotiques à spectre étroit. Ça veut dire qu'ils vont attaquer seulement une certaine famille de bactéries. Mm-hmm. Pour ne pas justement tuer toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin, quoi, pour ne pas bousiller tout notre microbiote. Mm-hmm. Puis on est en train de changer la philosophie pour aller... Enfin, on est en train de changer. C'est ce qui s'écrit, à mon avis, ce n'est pas encore... d'actualité, hein. Mm-hmm. Mais je crois que c'est là où se dirigent un peu ces traitements médicaux, c'est vers des traitements qui sont beaucoup plus personnalisés.
Ouais.
La médecine est un peu plus personnalisée, quoi.
Ok. Et là, donc, le fruit de ta thèse, c'était la confection d'un appareil diagnostique qui permet de justement isoler aussi beaucoup plus rapidement certaines bactéries.
Alors, le gros de ma thèse, c'était de dire, est-ce qu'on peut tester rapidement un antibiotique contre une bactérie ? Après, il y a eu une partie d'identification de bactéries qui a été aussi faite, enfin, principalement faite par l'ancienne doctorante que moi j'ai repris, j'ai réanalysé, etc. Mais le principal, c'était, est-ce qu'on peut rapidement faire un test de susceptibilité aux antimicrobiens ? Mmh. C'était ça. Et en gros, on peut le faire en utilisant des circuits photoniques intégrés. Ça, c'était la partie un peu compliquée, c'est mm-hmm. la partie physique, où en fait, on utilise la lumière qu'on injecte dans un circuit imprimé, comme un circuit électrique imprimé, hein, comme une carte intégrée qu'on a dans notre téléphone. Mm-hmm. Sauf que c'est pas de l'électricité qui passe au travers, mais c'est de la lumière. Puis cette lumière-là va être utilisée comme, si on veut, comme détecteur, en fait.
Mm-hmm. Avec l'enjeu derrière, justement, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir isoler le plus rapidement possible ces bactéries pour le diagnostic ? C'est que ça éviterait justement, dans les hôpitaux notamment, qu'on donne des antibiotiques à large spectre.
Exactement, exactement.
Et du coup, qu'on crée une résistance.
Exactement, ouais. Et du coup, on personnalise, on choisit très... Alors, la première chose, c'est que le patient peut être traité beaucoup plus rapidement. Mmh. Ça peut prendre plusieurs jours, en fait, à déterminer quel antibiotique il faut donner. Et puis deux, on peut beaucoup plus personnaliser, parce qu'on va beaucoup plus vite. Et du coup, c'est plus simple de trouver un antibiotique à spectre étroit au lieu de donner un antibiotique à spectre large.
Je ne sais plus si c'était aussi quelque chose que tu as développé dans ta thèse ou si c'était dans le fruit de tes recherches, mais je trouvais ça assez passionnant. C'était aussi l'utilisation de macrophages. Ça s'appelle comme ça.
Bactériophage. Ouais, ouais.
Pour comme une autre alternative en fait aux antibiotiques.
Ouais. Alors justement, alors tout ce qui est antimicrobien, ça englobe toute substance qui est capable de tuer un microbe. Donc là, les microbes dans le cas de ma thèse, c'était surtout les bactéries, et les antimicrobiens, ben, c'était les antibiotiques, et en particulier aussi les bactériophages. Donc les bactériophages, c'est des petits virus, par leur nom, qui vont infecter une bactérie et qui vont pouvoir la tuer. Donc c'est aussi un antimicrobien. Et on collabore avec le laboratoire du docteur Ray Chauchuv, qui est lui le chef du laboratoire des bactériophages du CHUV, justement pour voir si on pouvait détecter le fait qu'un phage infecte la bactérie et qu'il la fasse exploser.
Okay.
Et donc ça, on a pu le faire. Et c'est assez exotique et c'est assez... Enfin, c'est une thérapie qui revient un peu sur le front aujourd'hui à cause de la résistance aux antibiotiques.
Parce qu'elle était plus ancienne que les antibiotiques ?
Oui.
Ah ouais.
La thérapie par les phages, ça a été découvert, si je ne me trompe pas, au début du XXe siècle, en 1917 même, je crois, par Félix Derel. Et... ils n'ont pas réussi à montrer que c'était vraiment très efficace. Puis ensuite, il y a les antibiotiques qui sont arrivés. Il y a eu la Deuxième Guerre. Puis les antibiotiques, ben en fait, c'est l'âge d'or des antibiotiques parce qu'il y en a plusieurs qui ont été trouvés. Mm-hmm. Ça soignait beaucoup de gens. Enfin, les gens mouraient avant pour une infection. Après les antibiotiques, les gens ne mouraient plus. Mmh. Enfin, l'antibiotique, c'est une des plus grandes découvertes de toute l'humanité, quoi. Enfin, mmh. Et là, maintenant que qu'on a de plus en plus de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques, bah, il faut trouver des alternatives. Mmh. Et une des alternatives, c'est les bactériophages.
Et ça, c'est du coup déjà utilisé ou c'est vraiment...
Alors, c'est utilisé de façon compassionnelle. Ça veut dire que, c'est-à-dire que c'est au dernier recours.
Ok.
T'as un patient qui a une souche bactérienne qui est complètement résistante à tous les antibiotiques. Il sait qu'il ne va pas pouvoir survivre. Ben, il peut demander une thérapie de bactériophage.
Ok. Et ça peut guérir vraiment ou...
Oui, ça peut guérir. Ouais, ça peut. Il y a eu un cas dernièrement aux HUG. Et puis il y a plusieurs cas comme ça, mais je t'enverrai deux trois liens pour que tu les aies et puis éventuellement les mettre en copie
à fond.
Du podcast.
Alors, c'est clair si t'as des ben c'était un truc que je voulais.
Ben, la phagothérapie ça me botte beaucoup et ça m'intéresse beaucoup quoi.
Ben, c'est un thème qui est assez fou et puis je trouve aussi moi c'est quand j'étudie la nutrition beaucoup et ben, notamment pour ces liens entre microbiote et santé mentale. Je sais que ça se fait un peu aussi, c'est assez expérimental encore, mais de transplanter des microbiotes de personnes saines dans des personnes, tu vois, par exemple, comme moi qui ont j'ai une rectocolite, une maladie chronique au niveau du côlon. C'est des choses qui se font et qui peuvent avoir des jolis effets.
Bon, apparemment, ça marche même. D'après ce que j'ai compris, ça marche très très bien, la greffe de microbiote.
Et toi, ce que tu as lu, c'était pour quel type de problématique ?
Tu dis quoi, la
greffe de microbiote ?
Alors, en discutant avec des gens spécialisés, je l'ai appris ça, mais je l'ai vu...
Mais tu sais dans quelle application ils utilisent ça ?
Alors, je sais, il me semble qu'une des applications, c'est... Il y avait quelqu'un qui avait une infection ou Clostridium difficile, c'est une bactérie qui est multirésistante en fait dans les intestins. Et le seul moyen de guérir cette personne en fait, ça a été de lui faire une greffe de microbiote. Okay. Et l'a guéri.
Ok.
Mais je pense qu'il si on regarde la littérature, je suis sûr qu'il y a beaucoup, qu'il y a énormément d'exemples pour les bienfaits de cette greffe de microbiote. Et il y a un projet au CHUV maintenant.
Là-dessus,
sur la greffe de microbiote.
Et ben, je trouve pour les gens qui écoutent ce podcast, des choses aussi très concrètes à faire, c'est typiquement ce qu'on ne nous conseillait pas forcément à l'époque. Enfin, moi, je sais que j'ai pris je ne sais pas combien d'antibiotiques dans ma vie, mais c'est de faire après des cultures un peu probiotiques, soit avec des probiotiques de pharmacie, soit de manger des aliments probiotiques pour aussi refaire cette flore.
C'est cette flore intestinale, non, mais c'est sûr que c'est hyper important. Après, enfin, moi, je ne suis pas un médecin, je ne vais pas juger là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il faut juste écouter son médecin et puis suivre les instructions de son médecin si on nous prescrit un antibiotique. Il faut surtout pas l'arrêter avant.
Ça, c'est clair, ouais.
Il ne faut pas en prendre plus. Enfin, on écoute le médecin. Et pour les gens qui veulent s'informer un peu plus, il y a justement l'OMS qui a sorti un guide des antibiotiques.
Ouais.
Où l'OMS conseille les prises d'antibiotiques ou non pour un certain symptôme.
Non, ça c'est clair que ça, tu fais bien de le rappeler. C'est plus dans l'après-antibiotique pour refaire sa flore.
Oui.
C'est important.
C'est hyper important ça. Ouais.
Alors que c'est quelque chose. En tout cas, moi j'ai jamais entendu parler de ça avant il y a un an.
Ouais.
Ce qui est bien. On entendait
très peu, ouais. C'est vrai.
Mais volontiers, si tu as des références, parce que
je
pourrais les mettre aussi sur le podcast, ça peut être super intéressant.
Bien sûr, volontiers.
Je vois que l'heure tourne.
D'accord.
Et que la petite famille...
c'est déjà...
la petite famille va t'attendre gentiment chez toi. Avant qu'on termine, j'aime bien demander... Je voulais te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite.
De la chance et de l'amour et de l'amitié.
Ça me semble être sur les bons rails déjà.
Non, je pense que c'est le plus important.
T'as pas de truc à faire la promotion?
Non.
T'as pas un site de dropshipping?
J'ai rien du tout.
Tu vends pas des... Tu vends pas des coques de Natel? Alors du coup, bah voilà, merci en tout cas pour les gens qui ont écouté cet épisode, qui est un épisode hybride, et je trouve, que j'ai trouvé super intéressant, comme on en a discuté, j'essaierai de mettre des références dans les notes du podcast, de la vidéo YouTube, et puis je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.